Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. On marche décidément sur la tête dans cette campagne présidentielle. Quels auront été les deux principaux moments médiatiques de ces derniers jours? Le fait qu'un candidat reste candidat et le fait qu'un non-candidat reste non-candidat. Fillon y va toujours, Juppé n'y va toujours pas. Ce ne sont plus seulement les rebondissements qui font l'événement, mais aussi leur absence. En parlant d'absence, où est passé le quinquennat Hollande? C'est pourtant l'heure du bilan, l'ultime moment pour défendre ce qui a été fait pendant 5 ans. Sauf que personne dans la campagne, en tout cas parmi les candidats, n'entend endosser ce rôle. Les circonstances en ont voulu autrement. À moins que cette disparition traduise un phénomène plus profond. Non pas une simple crise politique conjoncturelle, mais une aspiration à un changement de régime, rendant caduque le principe de la simple alternance politique. Voilà, à vrai dire, tout ceci n'est que pure hypothèse. On sent bien que quelque chose ne tourne pas rond, mais difficile d'y voir clair. Alors, quelle crise politique vivons-nous? Eh bien, c'est pour essayer de nous éclaircir que j'ai le plaisir de recevoir ce soir deux invités. Myriam Revaud-Dallone, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, professeur émérite des universités à l'École pratique des hautes études, chercheuse associée au CEVIPOF. Vous avez publié l'an dernier au Seuil, enfin, c'était il y a quelques semaines de cela, Le miroir et la scène, ce que peut la représentation politique. Pour discuter avec vous, Jacques de Saint-Victor, bonsoir.
Bonsoir.
Historien du droit et des idées politiques, professeur des universités à Paris 8.
Paris 13 et
Paris 13. Les antipolitiques, c'est un ouvrage qu'on pourrait croire tout juste sorti de l'imprimerie. Il date déjà de 2014. C'est un essai que vous avez publié chez Grasset. Alors, on va essayer de voir quelles sont les crises, puisque ce sont des crises au pluriel, crises politiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui, à condition, bien entendu, d'être d'accord sur le fait qu'il y a peut-être une crise politique en ce moment. C'est la question que je vous pose, Myriam Revaud-Dallone. Est-ce que nous sommes en train de vivre une crise politique aujourd'hui, sachant que ce terme de crise, vous lui avez consacré un ouvrage en entier il y a 5 ans de cela?
Absolument. Un ouvrage qui s'appelait « La crise sans fin ». Alors effectivement, si nous sommes en crise, d'abord je pense que cette crise, elle déborde de beaucoup la sphère politique. Il s'agit aussi très certainement d'une crise idéologique, d'une crise morale, d'une crise des valeurs, d'une crise intellectuelle. Et la particularité de cette crise, c'est qu'elle n'a pas du tout le même sens que le sens classique que l'on donnait autrefois, que l'on a donné à la crise, qui est un moment de rupture très très violente, parce que ça, c'est sorti du vocabulaire médical, un moment de crise très violente qui est un moment où va se décider une alternative fondamentale, soit vers la guérison, soit vers la mort. Donc en fait, d'une certaine façon, le concept classique de crise implique qu'il y a une sortie de crise. Il y a forcément une sortie de crise.
Oui, parce que l'idée de rupture violente qui conduit soit à la guérison, soit vers la mort, on pourrait l'appliquer à la présidentielle aujourd'hui, non?
Oui, mais il n'y a pas que la présidentielle aujourd'hui. Parce que quand on parle, il n'y a pas qu'une crise à la présidentielle. Il y a une crise des institutions, il y a une crise des mentalités. Il y a, comment dire, une crise de la démocratie en général, un dérèglement de la logique démocratique au sens le plus large du terme. Donc, c'est une crise généralisée dont on ne voit pas la fin. Donc moi, je maintiens, si vous voulez, que si nous devons appeler ça une crise entre guillemets, premièrement, ça déborde de beaucoup la crise politique au sens étroit du terme, et que d'autre part, il faudrait peut-être essayer d'analyser plus en profondeur ce moment de bouleversement, de mutation générale, qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'on appelait au départ, la crise.
Jacques de Saint-Victor.
Oui, moi je souscris à l'analyse de la crise sans fin dans un certain nombre de domaines. Il y a, disons, on pourrait distinguer deux points, enfin deux niveaux. Il y a une crise institutionnelle et puis il y a une crise beaucoup plus large, comme vous le soulignez. Je pense que paradoxalement, ce qui à première vue surprend les Français d'aujourd'hui, c'est d'abord peut-être la crise institutionnelle, parce que Pendant longtemps, les gens de ma génération, des générations antérieures, et je dirais presque encore ceux des générations plus jeunes, ont été absolument convaincus, et ils avaient d'ailleurs raison, qu'on avait les meilleures institutions possibles, que les institutions de la Ve République, c'était des institutions solides, qui avaient fait leur preuve, et qui pouvaient résister à quasiment toutes les épreuves, si on peut dire.
Or, ce qui est un peu le cas aujourd'hui quand même. En tout cas, la Ve République, elle est toujours debout. Alors, elle vacille, mais elle est debout.
Elle est tout à fait debout. Je suis pas en train de vous dire qu'on est en mai 58. C'est pas ça. Mais on voit très bien que pour la première fois, nous avons une élection présidentielle qui va à l'encontre de tous ceux à quoi nous avons cru. C'est-à-dire que c'est une élection qui empêche au contraire un débat démocratique profond d'émerger. Nous voyons que ce que depuis longtemps, des gens qui critiquaient la Ve République, et je ne faisais pas partie de ces gens, moi j'étais plutôt, au contraire, j'ai toujours plutôt défendu les institutions de la Ve, mais là, indéniablement, cette cristallisation autour des hommes, avec tout ce que ça implique, et on le voit là, on y est en plein dans l'événement, mais on n'est qu'au début, parce que lorsqu'il va y avoir la fin de cette présidentielle, il va y avoir ensuite... Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, on y reviendra peut-être dans la discussion. Il va y avoir aussi ensuite des élections législatives. Il n'est pas du tout dit que nous n'allions pas vers une deuxième diarchie, les formes de cohabitation que nous avons connues. Et bref, un blocage institutionnel est toujours envisageable. Donc de toute façon, l'élection présidentielle aujourd'hui a démontré qu'on était dans une impasse. Or, et je termine, le paradoxe, c'est que nous n'allons pas pouvoir en sortir parce que c'est... en même temps sur un fond de crise démocratique profonde, et les Français sont donc très attachés à l'élection présidentielle, et par conséquent, ce qui crée notre problème, c'est-à-dire cette élection présidentielle, c'est en même temps ce qui fait, c'est l'élément auquel les Français sont plus attachés. Donc on est dans un paradoxe qui, alors là, pour le coup, me semble être une crise, et peut-être pas sans fin, mais en tout cas pour de longues années.
Oui, moi je voudrais dire quand même que vous disiez la Ve République avait l'air d'être un système institutionnel extrêmement solide qui avait fait ses preuves, mais quand même il y avait toujours eu des critiques qui s'étaient élevées contre la Ve République, c'est-à-dire contre le régime présidentiel, au nom d'une logique de la représentation démocratique.
C'est-à-dire que les critiques avaient quand même très rapidement, à partir des années 60, quasiment disparu.
Il se trouve qu'il s'était trouvé au début des présidents de la République des individualités ou des personnalités qui, d'une certaine façon, dissimulaient ou masquaient le fait que cette logique présidentielle n'était pas forcément, au fond, la plus adéquate à la représentation démocratique. Et ce qu'on voit maintenant, quand même, c'est l'exacerbation de quelque chose qui était peut-être donc en germe, c'est-à-dire on assiste, par exemple, il y a toutes sortes d'élections en France, il n'y a pas simplement les présidentielles, il y a les municipales, il y a les régionales, il y a tout ce qu'on voudra, et ce à quoi on assiste progressivement, c'est à une focalisation, on a assisté à une focalisation de l'attention des Français sur l'élection présidentielle, comme si c'était la seule qui valait la peine que, par exemple, on se déplace dans les urnes, parce que la montée de l'abstention, elle a été très très forte dans les autres types d'élections, comme si la quintessence, au fond, de la participation démocratique, ça consistait à élire le président. Donc il y avait quand même quelque chose, je dirais moi, que le verre était dans le fruit d'une certaine façon, que le verre était dans le fruit parce que cette logique présidentialiste, qui maintenant est devenue une véritable hystérie, on peut le dire comme ça, ce que nous vivons c'est une hystérie, absolument permanente au jour le jour, eh bien on en est venu à un état de fait où cette hystérie sur la présidentialisation, au fond, elle est en contradiction avec les exigences de la logique démocratique et avec les exigences de la représentation citoyenne. Oui, moi, ce n'est pas l'idée que je me fais de la logique démocratique.
On peut même y voir une forme de paradoxe, Myriam Revaud-Allon et Jacques de Saint-Victor, par rapport notamment à ce que vous évoquez tous les deux, ce que vous évoquiez dans votre précédente intervention, Jacques de Saint-Victor, en disant après la présidentielle, il va y avoir des législatives, et on va peut-être finalement se rendre compte que cette présidentielle-là n'aura rien réglé. Et c'est-à-dire qu'on a à la fois une élection qui focalise l'attention du plus grand nombre et qui, en même temps, semble avoir peut-être perdu de, si ce n'est de son utilité, en tout cas d'une partie de son utilité. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce paradoxe-là, Jacques-Victor?
Justement, je crois que la remarque de Myriam Revaud-Allon nous permet de comprendre les deux formes de critique qu'on peut faire à l'actuel système semi-présidentiel, puisque rentrons pas dans des détails juridiques, mais on n'est pas vraiment dans un système présidentiel. L'élection présidentielle peut être critiquée du point de vue de la démocratie, comme vient de faire Myriam Revaud-Allon. Et c'était en effet la critique que faisait Pierre Mendès-France, qui lui n'a jamais voulu participer à l'élection présidentielle pour cette raison. Mais justement, comme je vous le disais, on voit bien que dès l'élection de 65, François Mitterrand y participe. Et donc au fond, tout le monde admet plus ou moins ce processus. Non. Mais le plus grave aujourd'hui, c'est qu'on peut faire aussi une critique par rapport justement à l'efficacité. Alors là, c'est plus une question démocratique, c'est-à-dire par rapport à la logique même de ce que doit être le pouvoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que va produire cette élection présidentielle? Et c'est la question que vous suggérez, et qui me semble en effet aujourd'hui centrale, c'est-à-dire au-delà même de la question démocratique, qui est importante, mais qui est récurrente depuis en effet l'installation de la Ve République. Là, aujourd'hui, on se trouve face à quelque chose qui est inédit. C'est pour ça que je pense que l'élection de 2017 marquera un moment... un point nodal, enfin un moment, un tournant en tout cas dans la réflexion par rapport à cette question, c'est-à-dire que on voit que cette élection présidentielle, au lieu d'être quelque chose qui permet justement, malgré tout, et grâce à la participation populaire et démocratique, de trancher un certain nombre de choses, au contraire, elle a été complètement parasitée par des questions d'hommes, des questions sordides, même si ce ne sont pas des questions secondaires, mais des questions qui ne sont pas à la hauteur des enjeux considérables d'aujourd'hui. Parce que peut-être n'y a-t-il jamais eu une présidentielle depuis 58, depuis 65, aussi importante, parce qu'il y a des enjeux considérables à trancher aujourd'hui.
Mais est-ce qu'il faut voir un phénomène conjoncturel qui serait lié, par exemple, aux circonstances qui ont conduit, par exemple, François Hollande à ne pas se représenter, qui ont conduit François Fillon, après avoir été désigné par la primaire, à se retrouver dans une affaire judiciaire et donc à avoir cette forme d'hystérie, ou bien est-ce que, comme vous le disiez finalement un petit peu plus tôt, Myriam Revaud-Allon, le verre était dans le fruit et aujourd'hui, finalement, ce à quoi on assiste, c'est vraiment à un phénomène structurel et non pas seulement conjoncturel.
Mais c'est-à-dire que je pense qu'il y a les deux. Je pense que le phénomène, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du conjoncturel avec le type de personnalité qui se présente maintenant pour exercer le pouvoir, ça se greffe sur un problème structurel et un problème qui est... Alors, vous parliez tout à l'heure de paradoxe, mais il y a un paradoxe absolument extraordinaire qui est très très fort, qui existe depuis déjà un certain temps, c'est qu'il y a une désaffection. On dit que les gens ne s'intéressent plus à la politique. Il y a une désaffection considérable, non pas tellement par rapport à politique, mais par rapport au fond, à un certain nombre de systèmes ou de logiques traditionnelles comme les partis politiques ou les élections de moyen terme. Enfin, c'est-à-dire... Et là, il y a quelque chose qui fait que la crise est encore exacerbée par le fait que je crois que les gens s'intéressent à la politique. Je ne crois pas qu'ils ne s'intéressent plus à la politique, mais qu'ils ne s'intéressent pas à la politique sous les formes dans lesquelles elle l'aurait proposée. Donc, ce qui est encore un autre aspect du paradoxe extrêmement fort, et que là, il y a une véritable... Alors, c'est une crise aussi, une crise intellectuelle, parce que les gens... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que la politique, c'est très important. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont conscience que, au fond, vivre en commun dans la cité, je parle même pas de régime démocratique, mais que l'existence en commun, c'est quelque chose d'extrêmement important qui leur donne la possibilité, au fond, aussi de faire un certain nombre de choses pour eux-mêmes et dans le domaine privé. Et ils ne savent plus comment orienter cette activité, comment dire, au fond, de l'exercice des capacités communes. C'est-à-dire, ils ne savent pas, là quand même, tout le monde le dit, c'est pas un scoop, on est à combien, 3 mois de l'élection présidentielle.
On est à un gros mois et demi.
Et, comment dire, il y a pratiquement 70% des gens qui ne savent pas pour qui ils vont voter. Hein? Donc là, il y a quand même quelque chose qui ne savent pas pour qui ils vont voter. Alors nous, moi je suis quand même très très frappée, alors qu'on fait toutes sortes de propositions, on nous dit, oui alors maintenant, alors les électeurs, ce sont les électeurs stratèges, ils calculent, etc. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire que d'être un électeur stratège, sinon, au fond, avoir renoncé à voter pour ses convictions et essayer d'éviter le pire, c'est-à-dire être un électeur stratège, c'est ne plus avoir que des votes négatifs. Et puis, je voudrais dire quelque chose après sur le fait que tout ça, non seulement focalise l'attention sur l'élection présidentielle, mais focalise l'attention sur, comme si, au fond, l'élection, c'était le nec plus ultra de la vie démocratique. Or, il n'y a pas que les élections.
Oui, bon, mais en tout cas, ça compte quand même, puisque bien ça va déterminer ça des choix très
bien
importants.
Bien sûr que ça compte, mais ça compte avec d'autres choses autour.
On peut en discuter. Je pense qu'il y a, c'est très important d'évoquer la crise démocratique au sens large, mais c'est pas spécifiquement français. Ce que je veux dire, crise démocratique, on la retrouve dans quasiment tous les pays européens, peut-être tous les pays occidentaux, et on pourrait même aller au-delà.
Quand vous parlez de crise démocratique, vous entendez quoi? Crise de l'élection, crise de la représentation,
voilà,
la crise de la participation citoyenne, tout ce qu'on peut évoquer
sous la montée de l'antipolitique ou de la crise démocratique, crise de la représentation, etc. La montée des populistes, tout ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large et on en a des exemples quand même extrêmement éloquents qui pouvaient imaginer que Trump gagne aux États-Unis, que le Brexit soit triomphant dans un pays comme l'Angleterre qui a quand même été un des modèles de la démocratie, etc. etc.
Mais certains défendront plutôt une vitalité démocratique à travers la montée de certains populismes.
On peut de toute façon analyser des crises aussi comme une vitalité, je pense que vous serez d'accord. Mais là, pour revenir 5 secondes et pour après évoquer vraiment de manière plus profonde des crises qui nous traversent véritablement en Occident, pour rester sur la crise française, il y a une spécificité quand même. Et cette spécificité, je voudrais la résumer sans pouvoir donner encore une réponse, puisque ça nous amènerait dans des discussions peut-être trop longues. Mais on est avec les institutions de la Ve République qui ont été pensées pour justement résoudre ce qu'étaient les crises de la Troisième et de la Quatrième. Eh bien, on se retrouve avec ce paradoxe tout de même très, 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 très singulier que nous retrouvons devant une situation qui n'est pas loin d'évoquer ce que René Capitan, le grand juriste, évoquait sous la Quatrième en parlant du bas-empire républicain. C'est-à-dire que nous sommes avec pourtant des institutions extrêmement pensées pour être solides, y compris en étant moins démocratiques, si je veux aller dans votre sens, que ce qui pouvait exister auparavant, mais qui avait comme objectif justement d'éviter, pour dire les choses, la chienlit, pour prendre une expression gaulliste.
Bon.
Or, on n'en est pas loin. C'est-à-dire qu'on se retrouve devant ce paradoxe qu'avec des institutions de la Ve, nous avons à peu près un climat politique et une dérive qui n'est pas sans évoquer celle de la Quatrième. Donc ça, c'est quand même quelque chose sur lequel un jour, on pourrait essayer d'aller un peu plus loin.
Mais est-ce que ce sont les institutions qui sont remises en cause aujourd'hui ou est-ce que ce sont ceux qui incarnent ces institutions? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Mais attendez, il faudrait aussi définir qu'est-ce qu'on appelle les institutions. Est-ce que les... Voilà. Parce que ça, c'est aussi un problème. Est-ce que les institutions, c'est simplement, comment dire, au fond, le système, comment dire, organisationnel qui fait que, comment dire, de la Ve République, ou bien est-ce que les institutions, ça ne doit pas être pris aussi en un sens plus large, je pense, pour un peu paraphraser Montesquieu, à ce qu'on pourrait appeler l'esprit des institutions. Hein, parce que les institutions, ce n'est pas simplement des modes de fonctionnement. C'est aussi un investissement, comment dire, au fond, des citoyens, parce que c'est quand même important. On fait comme si, au fond, tout ce système de la Ve République, et même la République, la Ve République, ça se réduisait uniquement à des formes organisationnelles. Or, il y a quand même des gens qui vivent à l'intérieur de ces modèles, enfin, ce que j'appelle des citoyens, hein, et si soit ces citoyens, ils se contentent pas de voter. Ils pensent, ils réfléchissent ou ils réfléchissent pas, ils croient, ils ont une subjectivité. Donc en fait, ils ont un rapport à ces institutions. Un peu comme ce que Montesquieu appelait l'esprit des lois. Bon, donc de ce point de vue-là, il y a une véritable crise qui n'est pas simplement une crise des formes organisationnelles, mais une crise du rapport que les citoyens entretiennent avec ces institutions. Et moi, je suis extrêmement frappée par ce phénomène, une crise de ce que je rappellerais de la subjectivité citoyenne. Est-ce que je me fais... Bon, de la subjectivité citoyenne...
Vous
citoyenne.
Faites très très bien comprendre.
Voilà.
Enfin, en tout cas, moi, je vous comprends.
Donc, mais vous m'accorderez qu'il y a un paradoxe, puisque je suis à peu près d'accord avec ce que vous dites, mais en même temps, vous avez souligné vous-même, les Français sont très attachés, par exemple, à l'élection présidentielle.
Mais bien sûr.
Donc, il y a une critique, actuellement, des dérives non-démocratiques démocratique d'un certain nombre de nos organisations, et ça relève de ce que vous dites. Il y a une crise de la représentation, par exemple, c'est indéniable. Crise de la représentation politique, mais crise de la représentation au sens large. Par exemple, les médias sont très critiqués, les syndicats sont très critiqués, tout ce qui relève au fond de systèmes qui sembleraient être un écran entre le citoyen et le pouvoir.
Mais ça, c'est typiquement populiste.
Voilà, logique, absolument. C'est une logique qui se développe beaucoup aujourd'hui.
Parce que je voudrais quand même souligner que les grands théoriciens du système représentatif, bien sûr, ils ont fait de l'élection le cœur du système, mais il y avait aussi à côté de l'élection, de grandes instances comme l'opinion publique, tout ce qui pouvait s'exprimer. Du point de vue des citoyens à côté et qui encadrait, au fond, les élections. C'est-à-dire qu'au fond, même les grands théoriciens du système représentatif n'ont jamais dit que le gouvernement représentatif, ça consistait à aller aux urnes une fois tous les 3 ans ou tous les 5 ans, puis ensuite on rentrait chez soi, on s'occupait de ses affaires. Et... Non, pas du tout. Et justement, quand vous dites la critique des médias, la critique des juges, etc., mais ce sont des atteintes à des institutions qui sont absolument fondamentales dans la Ve République, comme dans les autres types de systèmes, et qui sont les contre-pouvoirs. Donc, en fait, le populisme, qu'est-ce qu'il fait en essayant de s'adresser directement au peuple? Il s'assied sur les contre-pouvoirs.
Alors, justement, on évoque les autres systèmes, voire les autres régimes. On a parlé des spécificités aussi de cette crise politique française, mais il y a aussi quelques parallèles qu'on peut tisser. C'est ce que vous faites dans Les Anti-Politiques, ouvrage donc de 2014, Jacques de Saint-Victor, où vous intéressez beaucoup au phénomène du mouvement 5 étoiles de BP Grillo, avec l'idée peut-être que ce qui s'est passé en Italie ou ce qui s'y passe peut-être servir de laboratoire politique à son voisin transalpin.
Oui, vous êtes gentil de citer Les Anti-Politiques, parce que c'est vrai que c'est un livre qui est paru en 2014 et on ne se rend pas compte à quel point, en quelques mois, il y a eu un changement en France. C'est-à-dire que quand il est sorti, il n'a eu aucun succès, parce qu'évidemment, ce n'était pas du tout une préoccupation française encore à l'époque, en 2014. En 2015, on a commencé à voir surgir ces phénomènes d'antipolitique à la française, de remise en cause profonde de tout ce qui est les corps intermédiaires, les contre-pouvoirs dont vous parliez, etc. Et ça, c'est un phénomène, en effet, comme l'Italie sert un peu de laboratoire politique, c'est vrai que c'est apparu d'abord là-bas, qui est lié à deux choses. D'abord, je suis absolument d'accord avec vous, une crise profonde de la représentation, et puis aussi l'émergence de nouveaux moyens de communication qui ont beaucoup contribué à favoriser ces rêves ou ces aspirations de démocratie directe. Et donc, par conséquent, l'idée a commencé à surgir, d'abord donc en Italie, puis ensuite un peu partout en Europe, qu'on pouvait finalement, grâce aux moyens technologiques, Internet, 2.0, etc., on pouvait commencer à court-circuiter, au fond, directement, tous ces corps qui ont en partie failli, faut pas non plus oublier que la crise de la représentation, elle est très dangereuse. Et nous sommes là, tout, je pense, à considérer que c'est quelque chose de très préoccupant pour l'avenir de nos démocraties. Mais en même temps, on ne peut pas nier non plus que ça s'appuie sur un constat plutôt d'échec et qu'il faut absolument essayer de retrouver les moyens de redonner de la vitalité et puis aussi de la, je ne sais pas s'il faut dire de la compétence, mais en tout cas de l'efficacité à ces systèmes. C'est-à-dire que le système représentatif est en crise aussi de son impuissance. Et ça, c'est puisqu'on revient sur l'histoire du quinquennat, il y a aussi ces éléments-là. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, on sent très bien que les citoyens sont en crise eux-mêmes, non pas parce qu'ils ne veulent plus de politique, mais parce qu'ils aspirent justement à ce qu'il y ait plus de politique. Or, c'est la réponse politique qui pose problème.
Alors, vous évoquez ces nouveaux moyens qui peuvent être mis à disposition des citoyens pour essayer justement d'aller vers davantage de démocratie, avec l'illusion que ça peut recouvrir dans certains cas. Mais si on remonte un tout petit peu plus en arrière, et si on franchit la Méditerranée, et qu'on se retrouve par exemple en 2011, avec notamment la révolution tunisienne.
C'est une manifestation sans précédent qu'est en train de connaître la Tunisie. Près de 10 000 personnes sont maintenant rassemblées devant le ministère de l'Intérieur, véritable symbole du régime Ben Ali, symbole de répression. C'est un mouvement totalement spontané et surtout pacifique. Pas un jet de pierre sur les forces de police. Trois rangs de policiers anti-émeutes protègent l'entrée du ministère. Une présence toutefois très légère et très discrète. Dans la foule, les slogans sont sans équivoque. Dégage Ben Ali, vos mains sont sales du sang du peuple, disent les pancartes. C'est comme si en un seul jour, la parole s'était libérée.
Moi j'ai 60 ans, pratiquement j'ai jamais connu ça. On n'a jamais fait d'élection dans ce pays-là. C'est la première fois qu'on arrive à s'exprimer, que je me trouve ici sans matraque. Donc c'est vraiment une journée historique. Là c'est un point de non-retour.
Voilà, on était en janvier 2011, donc au moment de la révolution tunisienne. D'autres ont suivi, qui ont tout aussi été favorisés, notamment par ce que permettaient les réseaux sociaux. Alors ça peut peut-être paraître un peu étrange d'utiliser cet extrait-là dans une discussion aujourd'hui sur la crise politique qu'on vit en France, mais il y avait notamment cette idée de « dégage Ben Ali », le dégagisme, qui aujourd'hui est un terme qui est revendiqué par quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, est-ce que on est dans des phénomènes, bien entendu, on va pas comparer ce que vivaient les Tunisiens avec ce que vivent les Français, mais est-ce qu'il y a quand même des points communs, des liens qu'on peut tisser entre ces deux situations, Myriam Revaud-Allon?
À mon avis, c'est un autre aspect du paradoxe, c'est-à-dire que la multiplication des réseaux sociaux, d'Internet, de systèmes de communication à côté des médias traditionnels, c'est dans des pays, par exemple, à structure autoritaire, comme dans certains nombres de régimes arabes autoritaires ou chez Ben Ali, c'est extrêmement, extrêmement positif, puisqu'on sait très bien qu'on arrive à faire passer des informations uniquement par les téléphones portables, par les réseaux sociaux, par toutes sortes de moyens de communication. Donc on ne peut pas dire non plus que ces systèmes de communication, ils sont tout blancs ou tout noirs. Donc c'est au fond, ce qui est très difficile à accepter, hein, c'est que toute l'existence politique, elle est sous le signe du paradoxe. Hein. De quelque manière qu'on le prenne. C'est le régime du paradoxe gouverne, je crois, la vie politique. Alors, évidemment, le slogan, le dégagisme ou dégage, c'est aussi un slogan très ambigu, hein, parce que c'est aussi un slogan très ambigu dans la mesure où ça peut vouloir dire effectivement, bon, dans le cas de Ben Ali, que les dictateurs dégagent ou que les corrompus dégagent, etc. Mais ça, qu'est-ce qu'on dégage aussi? Est-ce qu'on dégage les institutions? Alors, on sait très bien que, par exemple, le mot d'ordre du dégagisme, ça peut être aussi un slogan populiste, puisque c'est le slogan de l'antisystème. Donc, ça veut dire tout et n'importe quoi. En tout cas, ça peut être interprété de différentes manières.
Est-ce qu'on est, en tout cas, dans le dégagisme aujourd'hui, dans la volonté qui semble s'exprimer
chez une partie de l'électorat, oui.
Au moins, de renouveler profondément le personnel politique, avec certains qui l'acceptent plus facilement que d'autres. Par exemple, la déclaration d'Alain Juppé, qui est assez marquante hier, en disant, voilà, je n'incarne pas ce renouvellement et je fais le constat que je ne l'incarne pas. Bon, il y a peut-être d'autres raisons qui font qu'il qui tient cette déclaration-là, mais enfin, en tout cas, voilà.
C'est indéniable que l'on voit, y compris dans l'offre que l'on appelle non populiste. Et c'est là où je voulais souligner que c'est très compliqué actuellement ce qui se passe, parce que face à un populisme, disons, classique, on voit émerger ce qu'en Italie on appelle une sorte de populisme de gouvernement. Et ça rejoint ce que vous vous disiez. Il y a certains candidats qui se présentent comme les candidats non pas anti-système, mais par exemple ni droite ni gauche, qui sont au-delà ou qui essayent de se montrer au-delà des divisions traditionnelles. C'est quelque chose que on a bien connu, puisque en Italie Renzi a été sur cette position-là, par exemple. Et au fond, il a parlé de populisme de gouvernement, en théorisant même cela, en disant c'est pour mieux lutter contre le populisme, eh bien il faudrait être encore plus populiste que les populistes, parce que c'est vrai que dans une phase telle que nous la vivons, où au fond, qu'est-ce qui fait que les populismes marchent ? Eh bien c'est que leurs paroles marquent beaucoup plus que celles de celui qui va défendre la démocratie représentative, par exemple, bon, qui est un discours qui aujourd'hui tourne un peu à vide, parce que les gens ont le sentiment que on se paye un peu de mots en parlant de ça, mais on ne se paye pas de mots, puisque ce que l'on sait quand on est historien ou philosophe, c'est on sait ce que ça va être quand il n'y aura plus justement toutes ces procédures, parce qu'en fait c'est ça la clé de la logique représentative. C'est un ensemble de procédures qui vont éviter le dérapage final, vous voyez ce que je veux dire. Or, si on pense et si on croit que en faisant disparaître toutes ces procédures qui peuvent avoir un côté un peu désuet, un peu fastidieux, un peu lent, etc., etc.
Comme par exemple quoi ? Comme par exemple l'élection ?
Eh bien, non, je pense pas que personne ne veut remettre en cause l'élection stricto sensu, mais tout ce qui est autour du rêve, par exemple, de démocratie directe. Alors, vous avez cité un extrait pour dégager Ben Ali. Bon, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un régime autoritaire, ça peut être en effet très intéressant de le remettre, enfin, d'utiliser les moyens de nouvelles communications et d'y croire vraiment. La critique que l'on peut faire aux nouvelles technologies, c'est pas le fait qu'elles existent, c'est très bien, et de toute façon elles existent, donc c'est une donnée, c'est de croire que ça va être un nouveau Graal et que ça va, ouais, ça va être la panacée universelle.
Voilà, et que ça va remplacer d'autres modalités.
Et que l'on va pouvoir remplacer.
Mais surtout, ce qui est très frappant dans ce que vous dites là, sur ce, à la fois le populisme et le populisme de gouvernement, c'est cette espèce d'idée qu'on va s'adresser directement au peuple, en faisant l'économie de toutes les médiations. Je ne parle même pas de représentation, je parle de l'économie des médiations. Or, ce qu'on doit comprendre, c'est que le peuple, ça n'existe pas comme une entité qui est donnée comme ça immédiatement, et que ce peuple ne se constitue que par un certain nombre de médiations qui le font devenir comme tel. Les grands théoriciens de la philosophie politique, comme Rousseau ou Hobbes, disaient, au fond, qu'est-ce que c'est que le peuple ? Le peuple, pour qu'un peuple devienne un peuple, il faut une véritable opération, qui est l'opération représentative, par lequel le peuple se constitue comme tel. Parce que sinon, à quoi, ce populisme de gouvernement, à qui prétend-il, s'adresser à...
En même temps, Mireille Vaud-Allonne, ça n'est pas juste une illusion. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump. Électoralement parlant, ça semble quelque chose d'assez efficace. Ou même si on regarde notre paysage politique français, aujourd'hui, alors certes, ce ne sont que des sondages, mais les deux candidats qui arrivent en tête dans les sondages sont des candidats qui semblent quand même s'être passés assez facilement de cette médiation. Et les deux principaux partis représentés au Parlement, Parti Socialiste et Les Républicains, risquent de ne pas se retrouver au second tour de la présidentielle.
Le problème, c'est justement, alors maintenant, quand on se tourne du côté de la subjectivité des citoyens, c'est savoir pourquoi ça marche, pourquoi ça prend. Il y a quand même, il y a une très grande part de déception, il y a une part de désillusion, il y a ce qu'on appelle les oubliés de la mondialité. Il y a toutes sortes de raisons qui sont à la fois des raisons intellectuelles, des raisons sociologiques, des raisons, économiques, qui font. C'est pour ça que moi je parle d'une crise intellectuelle d'une extrême gravité. On est est arrivé au point où quelqu'un comme Trump, par exemple, raconte absolument n'importe quoi, où on en vient à parler de vérité alternative.
Mais enfin, post-vérité,
oui. C'est-à-dire qu'il y a des aberrations où même le candidat, comment dire, où maintenant même les candidats à la présidentielle, M. Fillon, a accusé hier ouvertement les médias d'avoir annoncé les suicides, le suicide de sa femme, ce qui est une, comment dire, un mensonge caractérisé. Bon, donc il y a maintenant une sorte, là où je parle de crise intellectuelle et morale, et très probablement de quelque chose qui est extrêmement profond et qui remonte probablement à un défaut très grave d'éducation civique des citoyens, c'est le fait qu'on est arrivé à un moment où, au fond, les politiques en viennent parfois à raconter n'importe quoi, sans filtre.
Mais est-ce qu'en supprimant finalement certains rendez-vous électoraux, peut-être on ne trouverait pas une bonne occasion d'atténuer un peu cette crise, si ce n'est
en fait,
de la
guerre complètement. Mais alors, un paradoxe tragique, parce que alors on voudrait avoir une meilleure démocratie en supprimant les processus démocratiques.
Puisque manifestement, c'est au moment des processus en tout cas électoraux que ça se cristallise et que ça s'hystérise totalement. Oui, on le voit bien là aujourd'hui.
C'est pour ça que, en effet, je suis pourtant, je vous disais, à la base partisan de la cinquième, mais c'est vrai qu'on voit là une limite en ce qui concerne le processus de l'élection présidentielle.
Auquel on a ajouté les primaires, en plus.
Voilà, non, en plus là-dessus.
Qui accentue encore le phénomène d'hystérisation.
Moi, je vis entre deux pays, l'Italie et la France. L'Italie était vraiment un contre-modèle politique, si vous voulez, absolu jusqu'à présent. Or, on se rend compte que sur un système finalement simplement parlementaire, il y a quand même beaucoup moins d'hystérisation dont vous parliez que l'élection présidentielle, parce qu'il s'agit de choisir un seul homme et pas une coalition de députés qui ensuite désigneront un président et un chef de gouvernement. Mais ce que je veux dire surtout, je rebondis sur la crise intellectuelle parce que je le crois vraiment, qu'il y a une crise profonde qui est presque au-delà, qui est aussi une crise intellectuelle, mais presque beaucoup plus importante encore. Et il y a un auteur qui n'est pas tellement connu en France, mais qui me semble avoir dit des choses vraiment très pertinentes sur ce que nous évoquons, c'est Colin Crouch, qui a écrit un livre qui s'appelle « La post-démocratie ». Et je crois que là, il y a des points vraiment, avec en tout cas, moi ça me correspond exactement aux analyses que je pouvais avoir dans les antipolitiques, c'est-à-dire qu'on voit très bien qu'on est arrivé à un moment qui est lié au contexte aussi politico-économique global. C'est-à-dire ce triomphe depuis les années 80 du néolibéralisme, dont non seulement on ne sort pas, mais au contraire, on veut aller encore plus loin, alors même que nous avons depuis 2008 le constat d'un échec saisissant de cette politique. Et ça contribue beaucoup à créer cette crise morale dont parle Myriam Revaud-Allône.
Parce mais que la post-démocratie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est après la démocratie ?
Oui, alors le terme, il est
oui,
pas...
Il
on
est
peut parler de, oui, on peut parler de... Certains d'autres parlent de démocratie de récit, ça correspondra aussi à cette post-vérité dont vous évoquiez. C'est-à-dire l'idée que, au fond, aujourd'hui, les citoyens sont dans une attitude de plus en plus passive parce qu'ils ont à la fois conscience que les grandes décisions leur échappent, elles ne sont pas là où existe la démocratie, et c'est-à-dire on décide là où on ne parle pas et on parle là où on ne décide pas. Pour résumer selon une phrase d'ailleurs de Philippe Séguin des années 90. Donc vous voyez, il avait été très lucide sur ce point. Et cette post-démocratie, par conséquent, au fond, contribue à accentuer la désespérance des citoyens parce que il y a vraiment l'idée, c'est propre à la démocratie au sens large, mais de promesses non tenues de manière encore plus considérable. Et Crouch a ajouté, d'ailleurs, c'est très intéressant, bon, c'est une analyse un peu compliquée, je ne vais pas la résumer, mais un des traits marquants aussi, c'était du fait de cette oligarchisation de liens de plus en plus étroits entre le monde politique et le monde décisionnaire et le monde économique frappant, c'était des dérives de plus en plus fortes vers des phénomènes de corruption. Hein, voyez, et ça accentue encore plus la dissociation, la désespérance des citoyens. Donc on est dans ce phénomène qui là n'est pas simplement français, attention, hein, c'est vraiment général à l'Occident, et se rajoute chez nous cette singularité de nos institutions, pardonnez-moi de revenir à notre conversation d'origine.
Myriam Revaud-Allône, ce sera la conclusion.
Écoutez,
on est déjà quasiment au terme de l'émission.
Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et en même temps, je persiste à penser que Il n'y a pas d'autre solution que la démocratie, qu'il n'y a pas d'autre solution que d'essayer de faire revivre des institutions, et que si, entamée soit-elle, si abîmée, si faillible soit-elle, l'objectif fondamental, c'est de leur redonner une existence qui, en même temps, redonne aux citoyens le sentiment qu'ils se réapproprient un certain nombre de capacités et d'actions.
Oui, c'est peut-être pas totalement, pardonnez-moi.
Dans la logique d'Arendt, revaloriser la question du politique. Je pense que c'est vraiment le point central. Il a été trop abîmé depuis les années 80.
Alors, on va dire que ce serait une conclusion, si ce n'est optimiste, en tout cas moins pessimiste finalement que la discussion qui a précédé. En tout cas, merci beaucoup d'avoir mené ce dialogue, l'un et l'autre, Jacques de Saint-Victor. Donc je rappelle, les antipolitiques chez Grasset, on doit toujours réussir à se le procurer, sinon l'éditeur va le rééditer.
On espère, grâce à vous.
Et puis Myriam Vaudallone, Le Miroir et la Scène, ce que peut la représentation politique, édité au Seuil. On va poursuivre pendant cette semaine, on ne l'a pas vraiment fait exprès, mais notre réflexion finalement autour de la perception et de l'exercice du pouvoir. Jeudi, on s'intéressera notamment à la difficulté qu'il peut y avoir à renoncer au pouvoir. Vendredi, ce sera sur l'exigence de probité. Et puis demain également, on va s'intéresser à un autre chef d'État que le nôtre. Ce sera François le Pape. A-t-il péché par orgueil depuis 4 ans qu'il est au Vatican? Ce sera la question que nous poserons à partir de 18h20. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Cyril Baer, Mélanie Chalon, dont Céline Leclerc, Béatrice Dedieu, Louise Fuseau, émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec la prise de son Pierrick Monsigny.